Nous avons à un moment donné travaillé sur ce sujet de la résistance chrétienne, notamment dans les Hautes-Alpes. Et aujourd'hui, nous vous proposons de prendre le parcours de Marcel Arnaud comme fil rouge de l'évocation de ces résistants. C'est-à-dire ces résistants qui sont marqués par leur foi et qui ont agi dans les Hautes-Alpes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce parcours, ce fil rouge, Monseigneur, vous parliez de lumière et de foi. Je pense qu'on retrouvera au moins ces deux axes à travers notre exposé, qui se partagera en trois parties. Une première partie, les années 30, où finalement beaucoup de choses se jouent avant la résistance. Puis une deuxième partie sur le début de cette résistance entre 40 et 42. Et enfin, avec l'occupation des Hautes-Alpes, 42-45, la suite de la résistance et malheureusement pour certains, la déportation. Donc le plus gros problème sera de tenir dans le temps, parce que nous avons beaucoup de choses à dire et nous allons essayer de le faire. Et je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre pour commencer.
Merci, merci Philippe. Si vous avez lu le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, vous avez déjà un certain nombre d'informations sur la personnalité de Marcel Arnaud et sur ce mouvement de résistance qu'on a un peu redécouvert et dont on va essayer d'approfondir, puisque c'est une résistance minoritaire, bien sûr, très particulière par rapport au modèle classique de la résistance armée, qui était la vision à la fois gaulliste et à la vision communiste, qui a été pendant longtemps la vision de l'historiographie de cette période. Alors, est-ce une résistance civile? Enfin, on viendra peut-être dans le débat. Enfin, est-ce une résistance, c'est une résistance qui peut être qualifiée de sociale, qui a été qualifiée de spirituelle, ou de résistance chrétienne? Et d'ailleurs, après 1945, il y a des notes aux archives qui essaient de retracer ce courant et qui l'appellent la résistance démocrate chrétienne. Donc les qualificatifs sont très mouvants. Mais cette résistance et notamment la personnalité de Marcel Arnaud, il est au centre, il est un peu un coordinateur. Il ne faudrait pas le voir comme un chef, d'ailleurs. Si la résistance militaire a eu des chefs, bien sûr, je pense que ce courant de la résistance, elle n'a pas eu de chef. Il s'agissait plutôt, il a agi probablement, et d'ailleurs les articles sur lui le montrent bien, comme un coordinateur, comme un animateur, comme un passeur d'idées, mais aussi comme un organisateur. Pas très facile de parler d'essayer de s'interroger sur une personnalité, mais il est né en 1911 et il appartient, me semble-t-il, à ce qui a été appelé dans les années 20 la génération orpheline, c'est-à-dire c'est un modèle littéraire, mais c'est aussi un modèle qui a été beaucoup décrit et qui fait que ces personnes-là ont dû en partie reconstruire une partie de leur personnalité, ce que les psychanalystes appelleraient le surmoi, qui ont aussi souvent été des pacifistes, qui ont pratiqué ce qu'on appelait le pacifisme intégral, bien que ce pacifisme ait été remis en cause avec la montée, évidemment, des totalitarismes dans les années 30. Qui sont confrontés. Enfin, certains d'entre vous ont lu le roman Aden Arabi de Nizan, qui commence par cette phrase. Il a été écrit en 1930. J'avais 20 ans, personne ne me laissera dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et je pense que cette génération-là a acquis un certain nombre de valeurs qui peuvent s'expliquer, qu'on peut retrouver. Donc le pacifisme, comme je l'ai mentionné, mais peut-être aussi une empathie particulière pour les victimes de tous les conflits. Et on verra que le rôle de Marcel Arnaud dans un organisme comme le Secours National, donner une priorité aux victimes avant de se préoccuper peut-être d'autres priorités. Alors évidemment, l'élément commun, et la personnalité de Marcel Arnaud, elle est essentiellement marquée par Et ça, c'est une phrase écrite par Marthe Arnault, sa foi vibrante et débordante. Alors, je ne le commente pas, mais. Et qu'il y a aussi, je vais trouver dans. Mauriac parle à propos de cette génération très engagée, des âmes ferventes, pétries de certitudes difficiles. Et je pense que ça traduit assez bien. C'est une génération qui est confrontée à la crise économique du tournant de 1930, à la montée du totalitarisme, aussi à la crise du parlementarisme qui est affectée dans cette période, cette Troisième République, par beaucoup de scandales. Et aussi peut-être, mais alors là je ne veux pas trop, par une crise de l'Église. C'est-à-dire que d'une part, me semble-t-il, hein, mais ça demande à être approfondi, l'Église reste dans ce qu'on a pu appeler un ghetto, ou n'a pas sa place dans la société française, parce qu'elle n'a peut-être pas complètement, à la suite de la séparation d'Église et d'État et d'autres événements, accepté la République, qui sera une idée de ce mouvement chrétien qui va se développer à ce moment-là. Il y a aussi, c'est une période de déchristianisation. Vous vous rappelez, on découvre que la France est un pays de mission. Elle est aussi, il y a une influence très forte de courants qui se réclament du christianisme, comme l'Action française, qui exerce une espèce, on pourrait dire, enfin le mot est peut-être fort, de totalitarisme intellectuel, et qui notamment font état, enfin expriment des sentiments antisémites. Et je pense qu'à cette situation, bon, c'est très superficiel ce que je dis, a généré un espèce de bouillonnement d'idées et a fait naître chez les catholiques la volonté de modifier ce système, enfin de remettre, de vouloir refonder une espèce d'église. C'est d'ailleurs Mauriac parlait de l'église de l'autre rive. Enfin, après la guerre de 45, on aurait peut-être parlé de chrétiens de gauche, je ne sais pas, ou plus récemment, en utilisant ces termes dont on est un peu flou, des chrétiens à la gauche du Christ, mais d'ailleurs un courant qui semble avoir un peu, on peut le regretter, disparu. C'est ce mouvement qui est évidemment très fort au sein des mouvements de jeunesse, la jeunesse catholique ou de jeunesse chrétienne, préconise une église qui se veut plus ancrée dans la République, qui se dissocie de ce conservatisme, qui est plus œcuménique, et on verra que toutes les actions conduites dans ces années 30 dans les Hautes-Alpes et ailleurs, hein, parce que ce qu'on décrit, ce qui se passe dans les Hautes-Alpes, sont des mouvements qui existent aussi ailleurs, et aussi qui veulent revenir à l'enseignement de la doctrine sociale de l'église. Par exemple, on sait pas, on serait intéressant de l'étudier et se créer dans le Champsaur et ailleurs des groupes qui s'appellent Albert Demain, qui est un des théoriciens de la doctrine sociale de l'Église, et qui critiquent le matérialisme, qui tiennent des propos extrêmement radicaux, qui font une critique de la bourgeoisie, une critique de l'argent, de la corruption des mœurs, de l'embourgeoisement, et qui, en fait, on peut penser que leur aspiration, c'est de vivre, d'essayer de trouver des modes de vie en conformité avec les messages évangéliques et avec leur foi. C'est ce que la revue Esprit appellera la primauté du spirituel ou la révolution spirituelle. Alors, ce courant, et c'est intéressant de voir que, enfin, pour revenir à Marcel Arnault, c'est qu'il joue un rôle important dans la mesure où il semble être l'un des personnes, mais il y en a d'autres, il y a Jules Guédan notamment, enfin, on n'a pas le temps de parler, mais qui a une influence aussi déterminante. Ils sont à la connexion, on pourrait dire aujourd'hui, d'un grand nombre de mouvements d'idées. Alors il y a bien sûr les mouvements nationaux de la jeunesse catholique. Il y avait des associations qui sont oubliées aujourd'hui, enfin, je n'ai pas le temps de les davider, des rencontres que fréquente Marcel Arnault et un certain nombre de ses amis au Alpin dans le Puy-de-Dôme. Et aussi, il y a un intérêt pour l'élaboration de modes d'organisation communautaire, mais le mot français communautaire, il faudrait le prendre au sens du mot anglo-saxon, a une autre signification, ça fait penser au communautarisme, etc. Mais c'est-à-dire que ce sont des communautés, des groupes de personnes qui pourraient travailler ensemble, vivre ensemble, et notamment vivre ensemble leur foi, prier, méditer, etc. Et ces modes d'organisation intéressent beaucoup Marcel Arnaud, puisqu'il fait des. Il identifie dans plusieurs endroits en France des communautés de ce type. Il va les visiter, avec d'ailleurs ses amis qui deviendra prêtre, l'abbé Vernet, mais qui à ce moment-là est un des dirigeants des mouvements catholiques haut alpin. Donc ce type de réseau met en connexion ces groupes avec ces courants d'idées et de discussions. On peut aussi évoquer l'importance, il y a beaucoup de. Je n'ai pas le temps de lire les citations, mais l'importance qu'a semblé jouer la naissance de la revue Esprit. D'ailleurs, un haut alpin, Irénée Marrou, qui est originaire des Hautes-Alpes et qui est, je crois, à l'époque, professeur de l'histoire des religions à Strasbourg, est un des participants. Et notamment à ce lieu de rencontre que Marcel Arnaud va créer à Saint-Léger-les-Mélèzes, ces fameuses rencontres de Saint-Léger-les-Mélèzes. Alors je pense de celles qui se sont tenues avant 1939, ou qui sont des lieux où on invite, et on n'a pas le nom de tous les intervenants, mais à la fois des hommes d'église, des philosophes, qui sont. Qui permettent d'exposer un certain nombre d'idées, d'en débattre, etc. Alors,
On a le château de Saint-Léger-les-Mélèzes.
Ah oui.
Excusez-moi, moi j'ai une liste de ceux qui participaient.
Ah bon.
Donc ce sera intéressant de
si on
la
a le
voir.
temps, peut-être après on peut voir. Ce qu'il faut peut-être voir, c'est essayer de retracer, mais très très rapidement. Les actions qui sont conduites. C'est à la fois un mouvement, mais ce n'est pas uniquement un mouvement intellectuel, c'est un mouvement de réflexion et qui est donc très ouvert sur beaucoup de lieux où à cette époque on ce bouillonnement intellectuel, mais c'est aussi un lieu donc, et qui se traduit par exemple par des relations qu'ont certains des membres de ce groupe avec. Le courant du Sillon qui n'existe plus, mais enfin qui existe sous forme donc de Sanglier, qui a été créé au début du siècle et qui se poursuit à l'intérieur d'un groupe qui est plutôt un groupe, une association politique qui s'appelle Jeune République et qui est essentiellement à l'époque un groupe qui préconise la paix, qui fait des rencontres en Allemagne, etc. C'est à cette époque-là que des membres, et je crois que c'est Gaston Faure, un des membres du groupe et des amis de Marcel Arnaud, qui crée une section CFTC dans les Hautes-Alpes, ça doit être vers 1937 ou 1928. C'est à ce moment-là que pour la première fois aux élections de 1936, le Parti démocrate populaire présente un candidat. Il y a l'influence aussi, on le sait, parce que des personnes que j'ai interviewées, y compris, alors je ne peux pas éviter de citer son nom, parce que c'est lui qui m'a parlé de Marcel Arnaud pour la première fois et qui revenait toujours à son rôle, qui est Yvon Truc, donc qui était un agriculteur à Montbran, donc un lieu qui est assez isolé, et qui me disait qu'il avait rencontré Marcel Arnaud, je crois, lors de leur service militaire, et ils étaient des amis. Et que Marcel Arnaud l'avait abonné à des revues qui sont, je crois, des revues des Dominicains, enfin 7, qui a été ensuite un peu mis à l'index, qui a été remplacé par Temps Présent. Il y a aussi La Vie catholique, qui est une revue qui a été créée, je crois, dans la fin des années 20. Et donc, on sait que ces revues et ces courants alimentent la réflexion de ce groupe de haut alpin. Mais ce n'est pas uniquement un mouvement intellectuel, c'est un mouvement qui veut passer à l'action. J'ai retrouvé dans. Alors, j'ai oublié de dire au début que ce que je sais de Marcel Arnaud, ce sont des témoignages sur lui que Madame Marcet, enfin, votre maman et vous m'avez prêté, des témoignages sur lui qui ont été recueillis dans les années 60-70, parce qu'il y avait un projet de livre coordonné par Jules Guédan et le projet n'ayant pas abouti. Et puis j'ai trouvé aussi aux archives un certain nombre d'informations sur lui, y compris 3 rapports des renseignements généraux. Donc vous me direz que c'est une littérature qui est peut-être très particulière. Il y a aussi beaucoup de références à lui et à son rôle, mais alors ça c'est après 39-40, dans les rapports mensuels que le préfet adresse à Vichy, au secrétaire d'État à l'intérieur. Donc, je ferme ma parenthèse pour. J'avais oublié, il faut toujours citer un peu ses sources. Alors, les actions. Il y a cette phrase d'Emmanuel Mounier qui dit, qui est citée quelque part dans les documents que j'ai lus, « Faire, c'est commencer à être ce que l'on veut que demain soit ». Et ces projets, ils sont multiples. Il y a d'abord tous les projets qui sont initiés par les mouvements d'action catholique, qui se posent aux Alpins, enfin, puisqu'on se revient dans les Hautes-Alpes. Et ce sont des mouvements qui affrontent les problèmes auxquels le monde rural est confronté, très particulièrement actifs dans le Champsaur, dans certaines régions, c'est-à-dire la désertification, enfin l'exode rural, et notamment le problème que dans les années 30, à cause de la crise économique, etc., certains courants migratoires, comme par exemple les migrations aux États-Unis, cessent, se tarissent, et qu'il faut orienter les migrations vers, dans cette période de crise, vers de nouvelles destinations. Il y a beaucoup de projets qui sont des projets de formation, de création de centres d'apprentissage, de mouvements, d'initiatives de formation. Il y a aussi, grâce à l'intervention d'un ami de Marcel Arnaud, qui est le professeur De Fontaine, qui est professeur de géographie à l'Université catholique de Lille, je crois, et qui fréquente la vallée de Champollion, où il vient passer ses vacances, ils initient tout un mouvement qu'aujourd'hui on appellerait de promotion du développement rural ou du développement local. C'est-à-dire qu'on fait l'inventaire des ressources locales, on se crée dans le Champsaur une fraternelle du Haut-Champsaur, une espèce de groupe d'études de ces problèmes, mais aussi de projets qui sont en matière de tourisme, en matière de création de centres d'apprentissage, d'ateliers relais pour promouvoir. Il y aura pendant la guerre un projet exemplaire qui est le plus connu, qui est le projet de l'abbé Poutrin, qui deviendra le lycée que vous connaissez tous. Mais il y a une multiplicité d'initiatives, dont beaucoup, bien sûr, n'aboutiront pas, parce que la guerre va être déclarée et que ces projets, certains d'entre eux, je sais, seront mis en œuvre après la guerre. Et puis il y a parmi les projets, des projets tels que le Relais ou pendant la guerre la communauté Daniel, qui sont pour Marcel Arnaud des expérimentations de cette vie en communauté. Alors c'est pas des communautés au sens de mai 68, hein, qui prennent la forme de coopératives de travail. Des coopératives, des communautés de vie. Quand on lit les statuts, c'est effectivement, on voit quelle est la finalité de ce lieu, avec peut-être cette idée aussi que ce n'est que dans le monde rural que l'on peut vivre sa foi, à proximité de la nature. Je ne sais pas, il y a toute une philosophie qu'il faudrait pouvoir enfin analyser. Donc le projet du Relais, vous le connaissez, hein, c'est un petit groupe qui se propose pour accueillir les jeunes agriculteurs ou les jeunes travailleurs qui viennent apparemment de façon saisonnière ou plus définitive travailler à Gap. Je ne sais pas s'il y a un essor industriel à ce moment-là avec des usines comme Charmasson, Nestlé, etc., et qui, pour les accueillir, il y a ce projet de créer une sorte de centre d'hôtel de jeunes travailleurs au sein duquel ils seraient associés à la gestion, où il y aurait de la formation, des échanges, des débats, et pour aussi probablement rompre l'isolement que vivaient ces jeunes migrants, parce que les moyens de communication n'étaient peut-être pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Donc le projet aussi deviendra, donc c'est un lieu symbolique, là aussi le projet sera, et Marcel Arnaud le reconnaissait amèrement, un semi-échec dans la mesure où ses objectifs seront remis en cause par la déclaration de la guerre, le fait que l'hôtel devra accueillir des réfugiés de l'Exode, et puis d'ailleurs au cours de la guerre il sera réquisitionné par diverses organisations occupantes, y compris la commission d'armistice d'abord, puis les Italiens, puis les Allemands. Donc le projet, beaucoup de ces projets, je pense, ne réussissent pas du fait de la conjoncture. Je suis peut-être trop long. Alors, ce que je voulais dire, c'est que parmi tous ces projets, pour en venir à... pour revenir à ces rencontres de s'alléger les mélèzes, si on ne sait pas bien qui sont, peut-être on saura plus, qui sont les intervenants et quels sont les thèmes qui sont débattus, il y a un thème qui semble être un thème central, qui est une réflexion, une analyse et des exposés sur ce qui constitue à l'époque le danger le plus important et qui est la montée du nazisme. J'ai une phrase là qui est sur le rôle de Marcel Arnaud, qui dit que quelqu'un qui dit à Saint-Léger-Mélèze, il accueille, il anime, il s'occupe de tout et de tous en créant une sérénité souriante, une atmosphère d'amitié sans réserve. Alors ce thème de Saint-Léger, ce thème en débat à Saint-Léger, il est évidemment et qui aboutira peut-être à cette contribution à ce mouvement de résistance spirituelle. Donc, elle est évidemment encouragée par, alors je ne sais plus en quelle année, la publication de l'encyclique Mit Brennen der Sorge, publiée en allemand par le pape, qui condamne le national-socialisme. Et puis, je crois qu'il y a eu une déclaration des évêques de France et puis des liens avec certains évêques, notamment Mgr Saliège, où on dit que beaucoup de Haut-Alpins sont abonnés au bulletin. Il est à Toulouse, je crois, évêque de Toulouse à ce moment-là. Et il aurait été un inspirateur de la dénonciation de ce régime. Alors, le nazisme, il est combattu, quand on voit comme étant arreligieux, comme étant promouvant une sorte de ce qu'il appelle de néopaganisme. Il est évidemment antisémite, ce qui est inacceptable. Il constitue un poison, un danger pour les libertés, et notamment les libertés de conscience, mais aussi d'autres libertés. Surtout après l'Anschluss, il y a l'arrestation de nombreux catholiques autrichiens. Et il y a, je pense, que ce groupe est aussi très influencé, et c'est la conception diffusée par la revue Esprit à l'époque, et c'est une conviction qui, heureusement, sera en partie erronée, enfin que l'histoire ne confirmera pas, c'est que le nazisme va s'imposer, et ça c'est jusqu'en 1941-1942, surtout après les premiers succès militaires de l'Asie, c'est que le nazisme va s'imposer à l'Europe pour très longtemps, et qu'il faut se préparer à créer des noyaux, des communautés de résistance à son régime et à son idéologie. Et ça, c'est d'où le... Donc, voilà, enfin, très rapidement, peut-être que j'ai oublié, mais un certain nombre... je pense qu'on ne peut pas comprendre les formes d'engagement dans cette résistance qui reste à définir, si on n'a pas un peu à l'esprit, et je l'ai dit peut-être pas d'une façon très claire, toutes les composantes de cette atmosphère de ces années 30, de ces courants contradictoires, à la fois des déceptions, mais aussi des très fortes aspirations, et avec une utilisation d'ailleurs d'un vocabulaire qui peut surprendre, par exemple quand on parle de révolution spirituelle, des critiques qui sont souvent mal comprises, y compris par d'autres chrétiens, parce qu'elles paraissent souvent utopiques ou peut-être un peu outrancières dans leur formulation, et qui est une espèce d'affirmation de cette génération qui non seulement veut affronter les dangers de cette période, mais aussi porter en elle des projets d'une vie nouvelle ou d'une vie plus conforme à leur foi.
Monsieur Balgrin, vous a parlé donc de ce groupe de Saint-Léger qui prenait la résistance à l'idéologie naziste, et je voudrais vous montrer un extrait d'un bulletin paroissial de Chorges en 1938, où quand même une partie des prêtres ou du clergé haut-alpin avait pris conscience des idées d'Hitler. Et voici la reproduction de ce bulletin paroissial qui est intitulé « Le destin d'Hitler ». Les premières phrases sont « Assurément, il pose au triomphateur l'homme qui a joué et gagné l'occupation militaire du Rhin et l'annexion de l'Autriche ». Et les derniers mots de ce texte sont « Qu'ils sont peu de choses, les grands de la terre, avec toute leur puissance, devant cette église impérissable, parce qu'elle est divine et qu'elle a reçu des promesses d'éternité. Le destin d'Hitler est inscrit au faste de l'histoire, c'est celui de tous les persécuteurs, il finira mal. » Et ce texte a été écrit donc au cours de l'été 1938. Donc déjà, on voit que certains Walpins avaient bien pris conscience de l'idéologie nazie et de ses dangers de l'idéologie nazie. Donc ceci a été écrit en 1938. Je vais faire juste un petit rappel de ce qui s'est passé entre 1939 et 1940 au sujet des Hautes-Alpes. Vous savez que donc, c'est le 3 septembre 1939 que l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne après l'occupation de la Pologne. Et donc pendant tout l'hiver 1939-1940, on peut dire qu'il ne se passe rien. Les Hautes-Alpes, par contre, ont l'armée, ce qu'on appelle l'armée des Alpes, qui est à la frontière avec l'Italie. Mais l'Italie n'a déclaré la guerre à la France que le 10 juin 1940. Donc on avait maintenu une armée parce qu'on avait peur que Mussolini attaque au niveau des Alpes et de la frontière, et de toute la frontière transalpine. Et Mussolini, en fait, ne déclare la guerre à la France que le 10 juin, alors qu'il y a déjà des demandes de conditions d'armistice de la part du gouvernement français. Mais la guerre aura quand même éclaté sur le côté briançonnais, hein, puisqu'on va parler des Hautes-Alpes, sur le côté briançonnais. Selon Marx Chiavon, il a écrit dans son livre « Une victoire dans la défaite », car l'Italie n'a pas, les Italiens ne sont pas arrivés, la guerre a duré 14 jours sur la frontière briançonnaise, et les Italiens ne sont pas arrivés à traverser, je dirais, la frontière. Voilà, donc ça c'est la situation des Hautes-Alpes qui va connaître après la gouvernement Vichy, puisqu'il y avait la zone libre jusqu'en 1942. En 1942, puisque les troupes américaines, françaises et anglaises débarquent en Afrique et remontent avec la Sicile, par la Sicile et par l'Italie, les Hautes-Alpes sont occupées pendant 6 mois à peu près, de novembre 42 au printemps 43 par les Italiens.
Le sud-est.
Le sud-est, mais bon, France. Je parlais plus spécialement d'Hautes-Alpes, les 6 départements du sud-est. L'armée italienne restera jusqu'au printemps 1943, printemps-été 1943. En septembre, l'armée italienne est défaite, septembre 1943, et le maréchal Badoglio, qui a remplacé Mussolini, demande l'armistice avec la France. Et à partir de ce moment-là, en septembre 1943, les Hautes-Alpes sont occupées par les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, ça c'était la présentation. Je dois dire qu'une chose, puisque l'armée française est dissoute en 1942, la plupart des militaires qui perdent leur statut de militaire formeront quand même une partie des groupes de résistance armée. Et notamment, c'est très connu dans les Hautes-Alpes. Voilà. Philippe va vous parler, je vous ai parlé de la position de l'Église en 38-39, donc Philippe va vous parler de la position de l'Église face à Vichy pendant cette période 40-42 et face à la défaite, puisque voilà. Vas-y.
Oui, alors la défaite de 1940, si on revient au plan national, On parle souvent de guerre éclair, effectivement, menée par les Allemands. Donc ça se passe en quelques jours, quelques semaines. Mais en fait, ce qu'il faut absolument souligner, c'est que c'est le plus grand désastre militaire français de l'histoire de la France. Voilà. Et ça, on oublie souvent de souligner l'ampleur de la défaite. C'est pour essayer de rentrer dans la compréhension de l'état d'esprit de cette époque-là. Donc en 1940, il y a un véritable effondrement militaire de la France. Alors, pourtant, le combat était mené avec ardeur, et l'Église elle-même, en 1939, par la voie la plus officielle, c'est-à-dire le cardinal de Paris, Verdier, parlait véritablement d'une guerre de civilisation, une croisade. Et pourquoi? Parce que, Jean-Pierre l'a souligné tout à l'heure, Pie XI avait déjà donné la base idéologique avec trois encycliques, une contre le fascisme, une contre le nazisme et une contre le communisme dans les années 30. Donc, pour les catholiques français, on est bien dans un combat qui a pour but, finalement, de maintenir la civilisation. Et bien, face à ça, un désastre en quelques jours. Des victimes, des déplacés et à peu près 2 millions de prisonniers de guerre. Alors, dans cette défaite, dans cette France troublée, qui, le 11 juillet 1940, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le milieu catholique est taraudé par une question qui est posée par un éditorial de La Croix. C'est Dieu, qu'a-t-on mérité pour cette défaite ? La réponse est donnée globalement en disant « Dieu n'a pas puni la France, mais par ses excès, par ses péchés, la France méritait une bonne leçon, finalement. » Donc, quelle leçon retirer de cela ? Il y a bien sûr, finalement, rapidement, la recherche des fautifs. Alors, pour Vichy, les fautifs seront ciblés. Alors, les francs-maçons, les communistes, les juifs, bon, etc. Pour les catholiques particulièrement, la leçon, elle est faite sur les péchés. Qu'a-t-on fait pour s'écarter autant de ce que Dieu nous avait fixé comme but? Et il y a bien sûr donc l'impiété qui est relevée, le manque de foi. Il y a même aussi les excès de la vie moderne, après l'industrialisation. Après le monde des usines, et le cardinal, l'évêque Saliège le dit bien dans l'extrait derrière, peut-être que vous ne voyez pas, en fait, c'est pour les conditions de travail dans les usines, pour, il dit même, la traite des blanches, pour tous les excès de cette vie moderne, eh bien, effectivement, nous avons subi cette défaite. Alors, dans la défaite, une des rares institutions debout, c'est l'Église. Et donc beaucoup de gens se raccrochent à cette institution-là. Donc sa position est très importante. Et elle est formulée en 1941 par l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, qui dit clairement, je cite, « Nous voulons que, sans inféodation, soit pratiqué un loyalisme sincère et complet » envers le pouvoir établi. Alors on pourrait faire une longue digression sur l'étude de cette formulation, très diplomatique, qui renvoie beaucoup dans l'histoire de la pensée de l'Église, sur le pouvoir jusqu'à Saint-Paul. Mais enfin, globalement, il y a un pouvoir établi, pas dit légitime, mais établi. Il faut donc respecter la loi telle qu'elle est. Bon. C'est ce rapprochement de fait, il est établi parce qu'il y a une recherche de l'union nationale. L'Église ne veut pas créer une désunion au sein des Français. Il y a aussi une parenté majeure entre le discours des débuts du maréchal Pétain avec certains thèmes de l'Église, le travail famille-patrie, mais le refus de l'esprit de jouissance et la mise en cause d'un certain laïcisme. Donc, des thèmes rapprochent le discours de l'Église et le discours de Vichy, et on a surtout la figure du maréchal. La figure du maréchal, c'est quand même le vainqueur de Verdun, c'est celui qui n'a jamais connu la défaite jusque-là, et c'est celui qui se donne pour la France, je fais don de ma personne à la France, etc. Donc, tout cela va dans le sens d'une acceptation du pouvoir tel qu'il est par l'institution ecclésiastique. À souligner aussi que la moitié des évêques de l'époque sont et de la génération de 14-18, c'est-à-dire ont été mobilisés durant la Première Guerre mondiale et ont donc cette proximité avec Pétain. Monseigneur Bonnabel, évêque de Gap depuis 1932, a été mobilisé dans l'armée en 14-18. Donc tout cela donne cet état d'esprit de l'institution, ce qui ne veut pas dire que l'ensemble des catholiques soit totalement crispé sur cette position-là, puisqu'elle peut donner une certaine liberté d'action, et c'est ce qu'on va voir avec cette résistance spirituelle.
Cette résistance spirituelle va redoubler avec les décrets anti-juifs de Vichy, les premiers statuts des juifs publiés le 18 octobre 1940, et le 2 juin 1941, les premières arrestations de juifs ont lieu en zone sud, c'est-à-dire les départements au sud de la ligne de démarcation. Alors, elle donne, cette résistance spirituelle donne lieu à certaines publications de documents. Le document le plus important, c'est le témoignage chrétien. Alors,
cahier,
oui. C'est le sermon de Matron. Voilà. Vous voyez, cahier de témoignage chrétien, il m'avait été donné par une personne qui avait participé à la résistance. Donc, il date, il y a la date en dessous de novembre 41. C'est le premier cahier. Au départ, il devait s'appeler le cahier du témoignage catholique. Donc, c'est le début de l'œcuménisme, parce que vous voyez, il a été recollé sur la bande de témoignages catholiques, cahier de témoignages chrétiens. Et c'est le premier document, on peut dire, où commence l'œcuménisme, puisque des protestants participent également à cette édition des cahiers de témoignages chrétiens. Dans les Hautes-Alpes, en 1941, les imprimeurs, les éditeurs, les frères Ribot, éditent à travers le désastre un livre écrit par un fervent catholique, c'est-à-dire Jacques Maritain. Ce petit opuscule part même aux États-Unis et sera distribué aux Américains avant que les Américains interviennent dans la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, il sera distribué, bien sûr, sous le manteau en France. Et puis, il faut également noter le sermon de l'abbé Matron, le jour de la Sainte-Jeanne d'Arc, en mai 1942. Le prêtre compare la situation de la France à la situation durant la guerre des Cent Ans, et il parle du message de Jeanne d'Arc. Et voici ses dernières paroles. Il nous dit ce message, que la collaboration avec l'ennemi, même vainqueur, et tant qu'il reste l'ennemi, de si haut que semble en venir l'exemple, le conseil ou l'ordre, n'a dans le langage, dans la langue française comme dans le langage chrétien, qu'un seul synonyme, trahison. Il nous dit ce message que la France n'est pas seulement une expression géographique ou un agglomérat de personnes parlant la même langue et ayant des mœurs communes, mais qu'elle est encore, qu'elle est surtout une âme, et que cette âme ne peut vivre et se développer que dans cette seule atmosphère, la liberté. C'est quand même un appel à la résistance. Bon, je peux vous dire que l'abbé Matron, le soir, n'a pas couché à Gap, que l'évêque l'a déplacé et qu'il a continué son exercice à la Frésinouse. Alors, il ne faut pas non plus oublier l'influence de Mgr Saliège, qui avait été évêque de Gap avant d'être nommé archevêque de Toulouse. Selon les frères Guibou-Ribot, qui m'avaient parlé à l'époque, il recevait sous le manteau les sermons de Mgr Saliège, il les redistribuait, et ces textes ont eu une grande influence, notamment sur les scouts. Et on sait que les scouts, en 1944, ont tous participé à la libération des Hautes-Alpes. Alors, pendant ce temps, c'est vrai que Toute cette période, bien sûr, le groupe de Saint-Léger a continué à exercer son, je dirais, son exercice. Enfin. Et puis, donc, je vous ai dit, en novembre 1942, les Alliés débarquent en Normandie. La zone allemande et la zone française est occupée d'abord par les Italiens et les Allemands. Et qu'en 1943, donc, Badoglio se remplace Mussolini, et c'est à partir de l'occupation, c'est vraiment à partir de l'occupation allemande que la résistance spirituelle va être accompagnée par la résistance armée dans le département. Alors, vas-y.
Oui, je pense que sur un point, là, c'est que. Qu'a dit Nadia, c'est que ce qui est extraordinaire, que l'étude de Maritain ait été publiée dans les Hautes-Alpes, diffusée à plusieurs centaines d'exemplaires dans le pays. Alors, sur les années 40, 43, 44, je pense qu'il faut insister aussi sur, pour revenir à Marcel Arnault, sur son rôle de délégué au sein du Secours national. Cette organisation, donc, une sorte de Croix-Rouge, qui avait été créée au cours de la Première Guerre mondiale et qui a été réactivée à la fin de 1939, est animée aussi par un courant de catholiques qui ont créé, et notamment sur l'initiative de, je sais plus son prénom, Garrick, qui s'appelait Robert Garrick, qui animait des équipes sociales. Et c'est Robert Garrick qui demande, en ce qui concerne les Hautes-Alpes, à Monsieur Arnault, de diriger. Alors, c'est une association qui a essentiellement des objectifs sociaux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la préoccupation pour les problèmes sociaux est aussi un élément de sa personnalité. Il a participé avec Gaston Faure à la création des allocations familiales agricoles et d'autres initiatives sociales. Cette organisation, le Secours national, va être très active. Elle va s'occuper des accueils des réfugiés, qui sont à la fois aussi la population de la frontière, des villages de la frontière qui sont évacués vers l'Ardèche au moment où les Italiens attaquent, puisque Marcel Arnault, et je crois, devient délégué donc c'est encore la Troisième République, en février ou mars 40. Il y a aussi, il crée des réseaux de bénévoles dans chaque commune ou canton. Il mobilise les mouvements des membres des anciens mouvements de jeunesse, des scouts, des enseignants, du personnel de santé. Et il développe toute cette aide, il organise toute cette aide d'accueil des réfugiés d'abord, ensuite de la débâcle, enfin de l'exode plutôt, pardon, qui ensuite rentreront chez eux, de l'accueil d'Alsaciens lorrains, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent dans le département, qui ont été expulsés par l'occupation allemande ou qui ont fui leur pays pour ne pas être incorporés ou ne pas vivre sous l'emprise nazie. Et puis aussi, arrive en zone libre, puisqu'elle offre une certaine sécurité des Français juifs, mais aussi beaucoup de juifs apatrides qui ont émigré au cours des années 30 et qui doivent être accueillis. Il y a des centres d'entraide, des écoles, etc., qui a joué un rôle important. Alors, l'une des énigmes que l'on rencontre, c'est que ce mouvement de catholiques qui anti-nazis, qui veulent s'engager, dont l'objectif est de s'opposer au nazisme. Dans un premier temps, et ça se passe à Saint-Léger-les-Mélèzes pendant l'été 40, ils décident de résister, y compris contre le gouvernement, contre l'administration pétainiste, qui considère que très rapidement l'armistice a été signé trop facilement, etc. Mais très rapidement, et on ne sait pas pour quelle raison, il décide aussi d'occuper des fonctions, de continuer à occuper des fonctions et d'investir des structures qui ne sont pas des structures propres au gouvernement de Vichy, encore qu'il y a le secrétariat d'État à la jeunesse, mais des organismes comme Refondation Rurale, dont l'animateur est Jules Guédan, ou le Secours National, qui est une association privée, mais qui évidemment est mise, comme toutes les structures associatives, sous le patronage du maréchal Pétain, et qui est utilisée par les mouvements pétainistes pour faire de la propagande pour le maréchal. Donc cette préoccupation sociale, elle me semble déterminante, et aussi cette stratégie d'occuper des lieux. Alors, est-ce au moment où il décide de cela, avec l'intention d'en détourner les moyens au bénéfice de toutes ces victimes du conflit, que ce soit des victimes de la guerre ou des victimes de Vichy, notamment en l'été 42, les premières arrestations et envois en zone libre des Juifs qui habitent dans la région, ou est-ce plus tard, au moment où s'est posée notamment la question, c'est au début de l'année 43, l'afflux, les problèmes posés par les jeunes qui refusent de répondre, qui sont requis, comme on disait, au service du travail obligatoire en Allemagne, et qui, profitant probablement de notre région ou qui offre un grand nombre de possibilités de refuge, décident de deviennent ce qu'on appelle des réfractaires, et où le Secours National, on le sait, d'ailleurs ce sera une cause probablement de l'arrestation de Marcel Arnault, utilise les moyens de ravitaillement qu'il a, mais aussi des effets, des moyens de vie en forêt, etc., pour pouvoir aider, et notamment en coopération avec Mauduit, à l'accueil et à la protection de cette catégorie de victimes que sont les jeunes réfractaires au STO, et dont on sait, vous savez, enfin Philippe va certainement le dire, que c'est de là, que de ces noyaux de camps refuges, que souvent sont nés les maquis.
Alors, sur cette collaboration Mauduit-Arnault, il faut souligner qu'elle est là dès le début. En fait, quand Antoine Mauduit s'installe au château de Montmort, en mai-juin 1942, il met en place une association qui s'appelle La Chaîne. Et parmi le premier bureau, vous avez ici le premier vice-président, c'est Marcel Arnault. Hein, sur les statuts, voilà, sa signature, son identité en haut. Il y a bien un lien qui s'établit tout de suite entre ces deux catholiques avec une foi fervente. Sur cette question du positionnement face à Vichy, alors on peut tenter quand même une hypothèse. C'est-à-dire que 40-42, vous avez un régime de Vichy qui peut sembler correspondre à certaines attentes, c'est-à-dire maintenir l'unité de la France, maintenir la France, bon. Et finalement avec des thèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas si éloignés que ça des préoccupations de certains catholiques. Alors, est-ce que tout de suite l'idée a été de détourner les moyens de l'administration? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour Mauduit, c'est évident, il y avait une conviction que quelque chose pouvait se faire avec Vichy, ou avec un soutien en tout cas officiel. Et certains historiens ont parlé de vichisto-résistants. En fait, non. Moi, je m'inscris en faux contre ça. Il ne peut pas y avoir de vichisto-résistants. On ne peut pas être à la fois vichiste et résistant. En fait, il y avait un malentendu. Le malentendu, c'est que ces résistants, Mauduit, Arnault, etc., ont cru que quelque chose était possible. Mais ils avaient en premier lieu, dans leurs préoccupations, le retour au combat et la libération. Ce que Pétain n'a jamais eu. Donc, le malentendu, il est là. Il y a deux différences fondamentales entre Pétain et ces chrétiens dont nous parlons. Premièrement, je l'ai dit, Pétain refuse d'imaginer un combat contre l'Allemagne. C'est fini, c'est la défaite. Alors que ces chrétiens pensent bien qu'il faut revenir au combat. Deuxième différence fondamentale, c'est que pour ces personnes engagées dans leur foi, c'est le spirituel d'abord. et Pétain est très éloigné de l'Église, très éloigné de la foi, et très éloigné de ces questions-là. Pour lui, ce serait plutôt politique d'abord.
Hein. Comme Maurras.
Comme Maurras. Et on a parlé de Maritain tout à l'heure, hein, dont À travers le désastre a été édité clandestinement là, qui venait des États-Unis. Et Maritain, en 26, avait écrit « Spirituel d'abord ». Voilà. Donc, ce courant de pensée qu'on a évoqué, il remonte petit à petit. Il y a peut-être une mésentente sur les intentions des uns et des autres, 40-42, mais ensuite, il y a une véritable révélation. Et on a un retournement du positionnement face à Vichy. Alors, juste avant de parler de l'action dans les maquis et dans l'action armée, on a, alors la carte ne se verra pas, tant pis, on a tout un mouvement de retour à la terre dans les Hautes-Alpes par ces chrétiens. Et on a donc Mauduit autour de Montmort. On a Arnaud. Et Jean-Pierre pourra dire peut-être un mot, qui reprend le hameau, l'hameau de Daniel, en Beauchesne. Il y a des urbains comme Paul Tissot qui vont chez
Truc
à Montbrun. Et puis une expérience à l'épine ensuite. Voilà. Donc on a des expériences de retour à la terre, c'est-à-dire qu'avec cette conviction qu'il faudra de toute façon revenir au combat, il y a aussi cette idée communautaire, cette idée de retrouver une vie meilleure. Et ça commence tout de suite. Avant même la reprise du combat, il y a cette volonté de mener une vie bonne, une volonté éthique. Et pour Agnel, une photo de la maison occupée par Marcel et Marthe Arnaud.
Oui, enfin... Oui, voilà. Je crois que c'est une question qui reste ouverte, c'est-à-dire à savoir, est-ce que ce projet communautaire, ce projet de vie communautaire a précédé la propagande qui a échoué d'ailleurs de retour à la terre, ou est-ce qu'elle n'était qu'un prétexte pour consolider les actions de résistance ? C'est vrai que... Il y a des personnes qui, de façon, même depuis les années 30, pensent qu'il faut revenir dans un milieu, enfin, à la terre, ou avoir des activités proches de la nature et loin d'un milieu, d'un monde urbain qui est considéré comme des lieux où l'on ne peut pas vivre sa foi. Ou bien, est-ce que c'est ça l'énigme, est-ce que ce projet-là est le... Et la cause, par exemple, de la création de la communauté Daniel, qui commence en 42, il y vit avec sa famille pendant une année, mais il faut reconstruire le hameau, il faut mettre les terres en culture, c'est une toute petite communauté. Ou bien la situation actuelle, qui est la nécessité de vivre en clandestinité, d'accueillir des gens qui sont recherchés et réprouvés, aussi sous l'influence de Mauduit, de trouver des lieux où l'on peut cacher la presse clandestine, qui a été distribué par tout ce mouvement depuis qu'elle commence à paraître à la fin des années 40 ou en 41. Est-ce que c'est la situation qui a... Enfin, ce qu'il a voulu... L'objectif premier était de faire des lieux de résistance, ou bien est-ce que c'est cette volonté de créer des communautés qui était l'espoir, une idée, j'en ai parlé pendant les années 30, qui ont conduit à faire de ces communautés des lieux de résistance. Enfin, on peut... Alors, sur cette résistance... les maquis... C'est-à-dire que le problème des maquis, c'est qu'il y a toute une première phase de l'année 43. On parle de maquis, mais en fait, il s'agit de camps-refuges. Parce que d'abord, mis à part quelques armes qui ont été récupérées en septembre 1943 au moment du départ des Italiens, et aussi des armes qui avaient été retrouvées par les Italiens, qui avaient été cachées par les officiers de l'armée d'armistice au moment où celle-ci a été dissoute en novembre 1942, il n'y a pas de résistance armée pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu de parachutage qui commenceront qu'au cours de l'année 40. Enfin, il y en a eu un en novembre 43, essentiellement d'explosifs pour saboter les usines. Vous savez que la résistance armée aux Alpines, elle est partie de l'initiative de Paul Hérault, qui était que les Anglais devaient détruire, avaient l'intention de bombarder l'ensemble des usines de la chaîne alpine, c'est-à-dire Gardanne, Saint-Auban, L'Argentière et puis toutes celles de Savoie qui produisaient pour l'Allemagne des produits stratégiques, notamment de l'alumine pour l'aéronautique, mais aussi des produits chimiques, et que la proposition faite par Paul Hérault aux représentants du SOE britannique a été de saboter ces usines pour éviter des dommages sur la population. Voilà le départ en novembre, en décembre 1943. Et ensuite, la résistance armée, elle se développe à partir du printemps 1944, suite à la multiplicité des parachutages et à l'armement des maquis. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui,
je sais pas,
mais... Alors, en fait, cette année 1943, elle est essentielle parce qu'on passe quand même à une action qui a véritablement un versant militaire affirmé de plus en plus dans les esprits, en tout cas. Puis après,
il y a une préparation à la vie militaire et il y a surtout un développement de la clandestinité, de trouver des lieux où on peut se cacher, se dissimuler, et notamment, bien sûr, surtout, dès l'occupation allemande, où les Allemands vont mettre en place un système de répression particulièrement sévère. Hein, quand on voit les listes, je regardais aux archives, chaque mois, à partir de septembre, il y a des dizaines, enfin même parfois 100, 150 personnes qui dans les Hautes-Alpes sont arrêtées. Bon, certaines sont libérées, mais d'autres sont déportées. Donc il y a un système répressif extrêmement violent et qui conduit à une espèce de cristallisation des oppositions et donc à l'idée qu'une résistance armée va éclater et qu'elle sera un élément de la libération.
C'est une question importante parce que, Jean-Pierre le soulignait au départ, hein, quelqu'un comme Marcel Arnault vit un pacifisme absolu, intégral, dans les années 30. Et lui-même, finalement, va aller dans ce sens de la résistance armée. À Niel, il y aura certaines caches d'armes, hein, en lien avec Mauduit, visiblement. Et finalement, ces chrétiens... qui, alors, pendant un temps, par exemple Guy Bourribeau, ont résisté par le papier, hein, par la presse, par l'imprimerie. Des chrétiens comme Marcel Arnault, qui ont d'abord pensé au secours des réfugiés, des pourchassés. Des chrétiens comme Paul Hérault, qui avaient une volonté de retrouver une France libre, s'orientent tous avec leur capacité vers cette organisation d'une libération armée. Et bien sûr, il y a un écart entre Marcel Arnault et Paul Hérault, puisque Paul Hérault est le chef militaire FFI du département, coordonne tout ce qui doit être l'organisation de l'armée secrète et met en place le plan de libération en 44 qui doit se faire en lien avec les alliés. Arnault n'a pas ses capacités militaires, hein, et il suit quand même cette structuration de la résistance aux Alpines. En fait, les chrétiens, donc là j'ai mis quelques figures, et il ne faudrait pas oublier Georges Rosanvallon par exemple, de Vennes, qui est dans le mouvement Libération notamment, tous ces chrétiens prennent une place assez importante dans les rouages de la structure résistante aux Alpines. Donc ils ont forcé finalement certains verrous personnels aussi, pour aboutir à cette idée qu'il n'y a plus que l'organisation d'une libération armée pour aboutir à leur idéal d'une France libérée.
Oui. Oui, on passe d'un pacifisme qui était produit par la haine, les conséquences de la Première Guerre mondiale, mais aussi c'est un pacifisme qui est peut-être induit simplement par le tu ne tueras point, hein, à une attitude qui consiste, il y a des citations qui le montrent bien, que est arrivé un moment où on ne peut pas fuir le combat et qu'il faut multiplier les formes, et notamment que cette résistance spirituelle n'est certainement pas suffisante pour affronter le combat qu'il faut livrer contre l'occupant, notamment dans cette atmosphère de répression de plus en plus forte. et qu'il ne faut pas et il faut poursuivre ce combat. Il faut pas, on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas être lâche, ce qui veut dire implicitement que on ne peut pas s'y dérober à ce combat et qu'il faut le conduire peut-être jusqu'au sacrifice.
Il se sacrifie, il est marquant pour de nombreux Alpins et pour notre sujet, des ecclésiastiques, donc Poutrin, Chalmé, en déportation tous les deux, et d'autres donc en déportation, mais qui ne reviendront pas, comme tous Antoine Mauduit et Marcel Arnaud.
Tous les cadres de l'ORA, de l'organisation
militaire
armée.
Tous les cadres de l'ORA aussi, et d'autres déportés. Et là, on voit véritablement que la répression a été féroce. Alors, cet adjectif de féroce ou de sauvage, on l'entend souvent pour l'épuration sauvage, après la libération. Mais attendez, avant, il y a une répression qui est sauvage, qui est beaucoup plus féroce, c'est celle des occupants allemands, et depuis septembre 1943, pour les Hautes-Alpes, avec des maquis décimés, hein, des structures qui finalement perdent rapidement leurs hommes, et on a un danger permanent pour ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dans la résistance. Oui.
Un historien allemand attribue la férocité de cette répression ici. Enfin, bon, les Hautes-Alpes ne sont pas un des hauts lieux de la résistance comme le Vercors ou l'Yerre, où il y a eu beaucoup, beaucoup de victimes, et peut-être on peut s'en féliciter. Mais la férocité de cette répression est analysée par le fait que, apparemment, les services, parce qu'il y a une double répression généralement, il y a une répression policière et puis il y a une répression militaire. Mais en ce qui concerne la répression policière, qu'on utilise ce terme de Gestapo, qui est d'ailleurs inapproprié, la raison en est donnée par le fait que quand les Allemands occupent en septembre 1943, et donc jusqu'à la libération, le sud-est de la France, les responsables de cette répression, alors c'est moins net au niveau alpin, mais c'est certainement visible au niveau de la Gestapo régionale de Marseille, sont des officiers de police qui viennent du front de l'Est et dont les méthodes de répression n'étaient pas les mêmes que celles qui s'étaient développées dans la zone occupée en France. Alors je ne sais pas si cette hypothèse est valable, mais en tout cas elle pourrait expliquer la violence de la répression, pas seulement d'ailleurs dans le sud-est de la France, mais aussi en Italie, qui a été occupée en même temps en 1943. Et même si on va dans le Piémont, on voit qu'il y a des villages qui ont brûlé, il y a une répression peut-être encore plus terrible que chez nous. Mais enfin,
en tout cas, oui, quand les Allemands sont partis par l'Italie, on les appelait les Moujiks.
Oui, bon, il y a eu l'histoire des Mongols, enfin, il y a eu tout
les
ça.
Mongols,
peut-être, il faut peut-être conclure.
Oui, on va conclure.
Oui, bon, oui, je ne sais pas si j'ai pas d'idée précise. Oui, le problème, c'est comment définir ce courant minoritaire, hein. Parce que, donc, évidemment, on l'inscrit dans le contexte d'une résistance chrétienne. Mais on pourrait penser aussi que ce n'est pas nécessairement l'appartenance religieuse qui a dicté les comportements des uns ou des autres. Hein. Il y a eu des résistants, la première heure y compris, et puis il y a eu des gens, des attentistes beaucoup et des collaborateurs. Je pense que ce qui est frappant, c'est de voir que cette résistance dite spirituelle, elle est basée aussi sur la prise de conscience, enfin que cet engagement d'abord repose sur leur foi, mais aussi sur une prise de conscience de la dangerosité que présentait pour les hommes et pour la société le nazisme. En tout cas, elle a aussi, on peut dire que cette résistance, elle a contribué à peut-être après à réintégrer les catholiques dans la République et à développer un courant politique. D'ailleurs, les démocrates chrétiens, le MRP après la guerre. Bon, il y a eu des peut-être que c'est pas la peine de épiloguer sur ces les effets qu'elle a pu avoir, mais elle est particulièrement originale. Et le point, c'est qu'elle est négligée. C'est évidemment ce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que le fait d'avoir eu à des moments de participer à des organismes qui se réclamaient de l'État du pétinisme, est apparu comme suspect après la guerre. C'est peut-être pour ça que ces résistants ont été oubliés ou n'ont pas été, je ne vais pas dire récompensés, mais enfin reconnus, ou que leur mémoire n'est pas apparue de façon aussi nette que, même s'ils ont, ils ont été des victimes et qu'ils ont fait le sacrifice de leur vie, par rapport à une résistance, à tous les résistants armés qui se sont illustrés au cours de l'été 44. C'est pour expliquer que peut-être il a fallu attendre 70 ans pour reconnaître. Et là, toi, tu sais très bien comment ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont les historiens analysent ces phénomènes, a pu varier au cours de ces 70 années. Et que c'est depuis quelques années qu'on reconnaît ces composantes sociales, spirituelles, civiques, d'une résistance qui avant était uniquement perçue et aussi reconnue comme une résistance qui était nécessairement armée.
Voilà, il y a bien d'autres pistes effectivement qui restent ouvertes. Pour conclure, toutes ces personnes dont on a parlé étaient certainement très différentes.
Pas citées, mais...
elles étaient très différentes. On les a réunies par leur foi. Et lorsqu'on pense précisément à Marcel Arnaud, on a cette lumière, effectivement, qui vient. Et on peut penser à lui et à ses compagnons lorsqu'on lit même un écrit chrétien du IIe siècle qui parlait des chrétiens qui vivaient dans le monde, hein, comme, effectivement, des citoyens, mais que, absolument et en premier lieu, ils étaient d'abord des citoyens du ciel. Voilà. Oui. Et merci à la famille d'Arnaud pour avoir organisé cette journée. Merci beaucoup.
Peut-être des débats, des questions. Hein, des questions.
Est-ce que je peux, sur la photo de Saint-Léger, du château de Saint-Léger, vous indiquer la partie du château que Marcel Arnaud avait loué? Je ne sais pas si ça vous intéresse.
Si, oui.
Voilà, c'est le micro. Comment on ne vous entend pas?
Voilà, la partie qu'il avait louée, c'est la partie qui est derrière l'arbre.
Quel arbre ?
Voilà, l'arbre qui est à droite.
D'accord.
C'est à l'extrémité du château, dans le village, puisque moi je suis de Saint-Léger, on appelait ça la maison du fermier. La partie principale que nous voyons, la famille Brochier l'occupait toujours pendant les vacances, puisque vivait à Grenoble.
Vous pouvez nous dire la liste des gens
vous pourrez peut-être nous la transmettre parce que
oui.
Elle est peut-être longue.
Ils sont pas nombreux,
mais on peut en discuter.
Je vais vous la donner.
Oui.
Ils ne sont pas nombreux,
oui.
Mais il y a...
Très bien.
Monsieur Arnaud, donc, ils vivaient là, ils avaient loué cette partie et ils rentraient dans l'autre côté, ils ne rentraient pas par l'entrée principale.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelques réactions à... Il faudrait peut-être voir le top départ dans la plaque. Hein.
La communauté de Daniel Arbochel, elle s'est appelée communauté Marcel Arnaud, en souvenir de,
oui.
De Marcel
guerre.
Arnaud.
Après 45.
Oui. Oui, oui.
On est pris par le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des... Si on a été particulièrement clair, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On n'a pas cité peut-être tous ceux, mais ce que Marcel Arnaud appelait ses équipiers dans chacun de ses projets, mais enfin il y aurait trop de noms, d'ailleurs de personnes qu'on connaît mal.
Une question après sur la suite de la famille Arnaud, donc après la mort de votre papa en camp de concentration. L'hôtel a dû être, si je me rappelle bien, l'hôtel a été vendu.
Oui, je sais pas.
Il a été loué, puis il a été vendu.
D'accord. Et alors après, vous êtes parti tout de suite après-guerre ou quelle a été la suite, un peu, Madame Arnaud et ses enfants, un peu, comment...
Ma mère a gardé l'hôtel jusqu'en 68. Elle allait, elle venait, on avait des personnes qui vous aidaient. Moi, j'ai même travaillé un petit peu. Mais nous, on est partis en
52 ou 54.
Je l'ai lu.
Toujours dans cette optique de continuer.
On n'a pas évoqué beaucoup de choses hein. Dans cette optique de l'héritage spirituel. Il faut dire que ces groupes de chrétiens, on va dire chrétiens sociaux, bon, ont eu une répercussion phénoménale après 45. Hein. Il faut quand même ne citons que le père Henri de Lubac, en fait, qui venait à Saint-Léger, qui était un des intervenants à Saint-Léger. Lorsqu'on sait son parcours. Ensuite, évidemment, ce sont des groupes qui ont impacté l'histoire de l'Église.
Oui. Il y a le père de Peretti aussi.
Oui.
Le père de Peretti, qui était, je crois, directeur du grand séminaire, qui était du diocèse de Gap en Brun. Alors, il y a aussi, oui, des membres fondateurs de ce parti démocrate populaire, François de Menton, qui est un Savoyard et qui sera l'un des fondateurs du mouvement Combat. D'ailleurs, il rencontrera Jules Guédon et Arnaud pour amorcer la création d'un mouvement Combat. Et puis finalement, il sera créé par d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui est Auguste Kerel, qui est un gars pensé, je crois, qui a joué un rôle très, notamment dans le projet du relais. Il y a Gaston Faure, alors qui est son nom est souvent avec Jules Guédon, indissociable de celui de Marcel Arnaud, et comme Georges Rosanvallon. Enfin, je pense que ce sont aussi des personnes qui ont été très, très impliquées d'abord dans les mouvements de l'action catholique et les mouvements de jeunesse, et qui ensuite ont participé à soit différents projets, soit à ces mouvements et ces formes de résistance. La société de Saint-Louis, c'est donc ce qui symbolise un peu cette aspiration à vivre en communauté qui a été créée au sud de Paris, dans l'Essonne. Oui, c'est par Primard, voilà.
Et
oui.
Paul Flamand, les éditions du Seuil.
Et que oui, Marcel Arnaud est allé les voir et il a adhéré à cette société de Saint-Louis qui s'est appelée parfois les sociétés de l'esprit. Alors c'est très curieux parce que l'inspecteur des renseignements généraux est très, très inquiet. Il considère que ça doit être une société secrète parce que l'un des principes de cette société, c'est d'abord de dénoncer le capitalisme et le salariat comme une forme d'esclavagisme, enfin, et aussi de proposer de répartir les produits du travail, non pas en fonction des mérites de chacun, mais en fonction de ses besoins, notamment des membres de sa famille, etc. Et de répartir sur. Donc, ce sont des idées qui peuvent paraître assez utopiques ou révolutionnaires, selon le cas, et qui intriguent beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des travaux aussi sur ce mouvement de vivre en communauté, mais de communauté au sens de communauté locale et de communauté de personnes qui ont des affinités, tout en respectant, bien sûr, la niche familiale, hein, mais d'avoir des activités communes, et qu'ils ont réfléchi même, c'est la société de Saint-Louis, à l'élaboration d'un droit qui permettrait de faciliter le fonctionnement de ces communautés, et un droit qui n'existait pas. Alors, c'est curieux, c'est que l'idée de communauté va être reprise par Vichy, et notamment, il y a une étude de François Perroux, mais qui est une étude très économique, sur la nécessité de mobiliser, disons, au niveau local, entre des personnes qui ont des affinités, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient d'autres, peut-être économiques, je ne sais pas, de les mobiliser pour avoir des liens sociaux, pour développer des projets pour leur région, etc. Enfin, et aussi, bien sûr, pour conforter leur foi et probablement pour répondre à un certain nombre de besoins sociaux et auxquels est confronté notamment le monde rural, les problèmes des populations, d'exode, etc. Ou de l'avenir de l'agriculture.
cette idée de communauté très forte dans les années 30. Et on a toute une réflexion hein, qui se met en place bien avant la guerre. Oui. Mais cette idée de communauté, pour les Walpins dont on a parlé, ce n'est pas une idée de communauté fermée, hein, pas du tout. Oui. Et on a des liens au-delà des Hautes-Alpes et on a des communautés qui se créent, peut-être des liens aussi importants. Il y a notamment Marcel Legault dans le Diwa, à l'Échandiwa, hein, au Barak, qui était polytechnicien, qui a tout quitté, et qui devient théologien, enfin, qui avait déjà des écrits poussés et profonds avant-guerre, et qui tout pour mener une vie de communauté rurale. Et au-delà de ces idées de communauté rurale, il y a aussi des communautés d'esprit ou fortes, puisqu'il y a eu des liens aussi avec tout ce qui s'est passé à Uriage, en Isère, avec l'école des cadres d'Uriage de Ségonzac.
On l'a dit, je ne sais pas si on l'a dit, je crois que Nadia l'a dit, que ce mouvement, il est œcuménique avant l'heure, puisque dans le groupe des Walpins, il y a une participation très active du pasteur Morel, et qui est d'ailleurs, paraît-il, à l'époque, et aussi des jeunes protestants qui participent à ces mouvements. Le changement du terme, d'ailleurs, chrétien-catholique, est assez significatif. Et alors, je ne sais pas quelle était la position officielle de l'Église à ce moment-là. Par contre, il faut penser aussi que la revue Esprit, qui, à mon avis, a beaucoup inspiré Marcel Arnaud et ses amis, du fait qu'ils la lisaient et qu'il y a des phrases dans lesquelles ils disent voilà, « Voilà une nouvelle voie qui s'offre à nous, voilà des champs d'action qu'il faut prospecter », la revue Esprit a été créée avec l'intention de reposer sur la formation de groupes locaux et définis comme des lieux où les chrétiens, les catholiques notamment, devaient dialoguer avec les protestants, mais aussi créer des lieux de dialogue avec des agnostiques, voire peut-être avec des anticléricaux. Bon, là, je pense que le groupe Walpin n'est pas allé jusque-là, mais c'était un des objectifs de la revue Esprit, qui me semble, quand on voit les noms des intervenants ici, le rôle a joué un rôle, une inspiration a été un lieu, une revue d'inspiration du groupe dont on a parlé, au moins dans les années 30.
Oui, mais ces lieux de dialogue, finalement, n'ont-ils pas été créés dans la résistance par la force des choses? Oui. Finalement, les chrétiens dont on parlait dans la structuration de la résistance walpine n'ont pas travaillé dans leur coin. Ils ont travaillé avec toutes les composantes petit à petit qui se sont fédérées, ou au moins qui se sont entendues. Et là-dedans, ben oui, il y avait des chrétiens, il y avait donc des catholiques, des protestants, mais il y avait d'autres confessions, puis il y avait des agnostiques, etc. Donc je pense que finalement, par la force des choses, de toute façon, ces lieux de dialogue se sont créés dans l'épreuve.
Oui. Enfin, on peut considérer que ce mouvement de résistance spirituelle, il disparaît de lui-même à partir du moment où la résistance, elle est unifiée, notamment dans les FFI, au moment où elle devient une résistance militaire. Et d'ailleurs, on voit que Ribot entre, ou par exemple Jules Guédan fait partie de l'AS, est un des adjoints de Paul Hérault, quand son état-major s'installe dans la montagne de Saint-Genis, et qu'en fait, ensuite, ils deviennent intégrés dans ces mouvements de résistance armée, qui d'ailleurs est dans les Hautes-Alpes, il faut le dire, et je pense que c'est grâce au charisme et à la personnalité de Paul Hérault, est arrivé à fédérer, y compris d'ailleurs en y fédérant la résistance communiste. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai étudié aussi la résistance communiste qui est complètement méconnue, et j'ai eu la chance de quelqu'un qui m'avait prêté des cassettes de Gaston Julien, donc, qui était le responsable communiste, et qui dit il a sur Paul Hérault des propos extraordinaires. D'ailleurs, il le définit, de la part d'un communiste, c'est assez intéressant, comme un apôtre. Et qui dit que grâce à lui, la résistance aux Alpines a été une résistance unie, alors que dans d'autres départements voisins, il y a eu des conflits très, très violents. Et je pense que cet unanimisme, enfin, ou cette cohésion qui a pu être donnée, et Paul Hérault, alors, est un personnage, enfin, l'ambition, je ne sais pas si j'y arriverai, d'écrire un livre sur lui, parce que c'est une personnalité aussi membre de la société Saint-Vincent-de-Paul, personnage assez secret, un grand alpiniste, un personnage modeste, et un civil, enfin, qui arrive à s'imposer pour diriger une résistance qui est encadrée et dominée par des officiers, par des militaires. Et je pense qu'il y avait des relations entre deux, hein, de même qu'avec Mauduit, mais que l'on connaît mal. Et je pense qu'il y a un courant, une inspiration commune, même qui a pu se traduire par des formes de participation très diversifiées à ce vaste mouvement de résistance.
Oui, j'ai une question, tu m'entends ? Oui, j'ai une question concernant François Mitterrand. Comme chacun sait, il a passé 4 mois au château de Montmort, il connaissait bien Antoine Mauduit, et je voudrais un petit peu que, voilà, que vous donniez quelques informations par rapport à ça. A-t-il connu Marcel Arnault ? Et évidemment, vu les éléments que vous nous avez présentés, il est patent que François Mitterrand, de par sa formation, sa famille, etc., il est proche, effectivement, il est assez proche des milieux de très catholiques. Et j'aimerais un petit peu que vous nous évoquiez ce sujet. Merci.
Alors cette question de Mitterrand dans les Hautes-Alpes, elle existe effectivement puisque Mitterrand comme ancien prisonnier de guerre, comme Mauduit, est présent à la création de la chaîne à Montmort. Il ne vient que par intermittence. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu de véritables liens avec Marcel Arnault. Ils se sont vus. Ils se sont vus entre le 12 et 15 juin 1942, c'est sûr, à Montmort. Lorsque l'association La Chaîne a été créée, c'est la signature de Marcel Arnault que je montrais, il y avait Mitterrand aussi présent. Je ne pense pas qu'il y ait eu de liens véritablement qui se sont créés entre eux. Mitterrand, alors, j'essaie de le montrer aussi dans l'étude que j'ai menée, Mitterrand va très vite, même s'il est très jeune, avoir une ambition de structurer un réseau national. Mauduit, notamment, va rester avec ses petits autour de Montmort, dans les Hautes-Alpes. Et je pense que Marcel Arnault était plutôt de cet état d'esprit-là et qu'il n'y a pas eu de véritable atome crochu entre Mitterrand et Marcel Arnault. Vous voyez qu'on est très bavard, surtout Jean-Pierre,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais je pense, c'est l'heure d'aller vers le relais. Donc, en tout cas, on voulait donner cet exposé pour éclairer le destin de Marcel Arnault, qui aujourd'hui va être finalement okay. Célébré sur le mur du relais. Et je laisse peut-être Dominique organiser la suite. Vous voulez ?
Non, mais j'ai le journal.
Ah bon, oui.
J'aimerais vous remercier deux fois. Donc là, nous allons aller vers le relais.